Là, je cède la parole maintenant à André Nucci. Je vous ai parlé des continuités, on va maintenant vous parler des ruptures.
Merci, merci Gilbert. Bon, je prends la parole immédiatement après Gilbert Meunier. Là, je vais aborder quelque chose de totalement différent parce que je considère que l'arrivée des Français sur les côtes de l'Algérie en juin 1830 et la prise d'Alger en 5 juillet 1830 va inaugurer cette arrivée des Français sur les côtes de ce qui n'est pas encore l'Algérie, c'est la régence d'Alger, va inaugurer une période de rupture, mais de rupture très profonde, car ces ruptures qui caractérisent la présence coloniale de la France sont de tous ordres. Rupture politique, bien sûr, pas immédiate, mais rupture économique, rupture culturelle, rupture sociale, et finalement, ces multiples ruptures étagées dans le temps, et étalées dans le temps aussi, ces multiples ruptures vont constituer le fond d'un nouveau type de colonisation, une colonisation d'un nouveau genre qui inaugure pour la France la forme la plus nouvelle, la plus originale, la plus unique également, de la typologie coloniale. Soyez persuadés que la colonisation d'Algérie est unique dans l'histoire des colonisations européennes ou mondiales à travers le monde. Elle est unique parce que elle va toucher le tréfonds des mentalités. Elle va toucher le tréfonds des économies. Elle va toucher le tréfonds des sociétés. Et, ce qui est beaucoup plus grave, elle va laisser un héritage qu'il est difficile de contourner. Je voudrais dire également que dans l'histoire longue de l'Algérie, je reste frappé. Gilbert vient d'insister beaucoup sur les problèmes de continuité. Il y en a effectivement. Mais ce qui me frappe très fort, c'est que par exemple, l'implantation de la France rompt d'une façon catégorique et violente avec ce qu'a été l'histoire antérieure de la régence d'Alger. Et de la même façon, la prise du pouvoir par le FLN en 1962 est une rupture catégorique, fondamentale, qui se veut fondamentale par rapport à la présence coloniale française. Elle se veut, en fait, on pourra voir qu'il y a des continuités plus profondes qu'on puisse l'imaginer, qu'on pourrait l'imaginer, entre le fait colonial français et l'Algérie du FLN. Cette rupture et cette histoire des ruptures qui est inaugurée par la colonisation française, elle se fait en trois temps. Un premier temps très court, entre la prise d'Alger, 5 juillet 1830, et, disons en gros, 1848-1850. Je vais vous expliquer, je vais vous dire pourquoi 48-50. 48 parce que c'est avec la Deuxième République la définition d'une Algérie dite, écrite, rédigée officiellement, on trouve le mot Algérie, qui est composée de 3 départements français. Alger, Oran, Constantine. C'est une nouveauté. C'est un fait anodin, en apparence, en fait, majeur. Parce que la France et les Français, et aussi les habitants européens d'Algérie, s'accrocheront comme des naufragés à cette idée de l'Algérie composée de 3 départements. Ça, c'est le premier temps. Et je vais vous donner, je vais essayer de vous en démonter les mécanismes. Le second temps, c'est la période du Second Empire. Une période cruciale, capitale. Vous allez me dire que je me répète, non. Je dis que c'est une période capitale parce que là, on a l'impression que le système colonial antérieur, inauguré, instauré antérieurement, peut basculer dans un autre sens. Et puis, à la vérité, ce système s'effondre en 1870 avec la défaite des armées impériales à Sedan. À partir de quoi le destin des armes fait basculer l'Algérie dans un type nouveau de colonisation, un type nouveau d'autorité politique, d'autorité économique. C'est une véritable révolution, mais qui va très loin, qui commence en 1871 et qui se termine mal en 1962. Elle a duré un peu moins de 100 ans. C'est l'ordre colonial français en Algérie. Ça, c'est la rupture la plus catégorique, la plus profonde, la plus radicale. Quand les Français arrivent en 1830, ils ne savent pas. D'abord, est-ce qu'ils connaissent bien le pays ? Non. Je peux vous dire à partir de ce que j'ai vu comme documents et comme archives, les Français connaissent mal le pays, le connaissent superficiellement. Ils n'en connaissent pas l'intérieur, ils n'en connaissent pas les mécanismes profonds. Et ils apprendront à le connaître sur le tas, mais sans même le connaître, sans même l'avoir connu du dedans, ils introduisent, dès les premières semaines, dès les premiers mois, des mutations fondamentales qui touche à l'ordre économique du pays. C'est-à-dire que, par exemple, on voit les Français introduire un ordre économique nouveau avec création de chambres de commerce. Une chambre de commerce créée à Alger, d'abord, bien sûr. Mais pour faire bonne mesure, on va, alors que les Français constituent une poignée d'individus, on va donner la majorité de cette chambre de commerce à 8 Français, un mort, ce sera toujours le même, ce sera le mort symbolique, et un juif, un commerçant juif. Et on fait de cela la chambre de commerce d'Alger. Non seulement on crée une chambre de commerce, c'est-à-dire que on crée un fait de non-retour, mais on introduit également, sans même en avoir délibéré d'une façon formelle, on introduit une nouvelle monnaie, symbole de souveraineté. On introduit le franc. Et à partir de quoi ? À partir de cette décision, toute la vie économique d'abord d'Alger, qui vient d'être conquise, qui vient d'être occupée, toute la vie économique d'Alger d'abord, de ses environs, et ensuite par contamination, l'ensemble de l'administration française militaire travaille avec la nouvelle monnaie. On ignore délibérément, et c'est là, c'est le reproche majeur que fait Pélissier Dreyneau dans ses annales algériennes, il dit, mais on a ignoré, on a délibérément ignoré, on a piétiné ce qui existait antérieurement. Ce qui signifie que le franc, la monnaie, la nouvelle monnaie, introduisent nécessairement de ce fait, et avec les premiers arrivages de bateaux, on introduit nécessairement à ce moment-là un système commercial et un système de prix qui va engendrer une hausse des prix fondée sur l'or et donc un appauvrissement des citadins qui sont restés à Alger et qui n'ont pas fui l'occupant français. Et cet appauvrissement, cette dévaluation va toucher non seulement les humbles, mais aussi les familles les plus notables. Et nous nous trouvons là devant un basculement socio-économique qui est aussi un basculement de non-retour. À partir d'Alger, et la conquête d'Alger va engendrer à ce moment-là un mécanisme de conquête territoriale presque systématique, ne serait-ce que pour pouvoir avoir des points, des moyens de défense contre eux. Un retour des Algériens, une contre-offensive des Algériens, qui n'est pas une vaine crainte, qui est une réalité. Donc à ce moment-là, l'extension de cette occupation va engendrer nécessairement une extension de ces deux phénomènes que je viens de citer, avec un troisième dont il faut tenir compte, l'insertion d'Alger comme point d'ancrage du commerce français et donc du commerce international dans la Méditerranée. Il y a donc, vous le voyez, un ensemble de mécanismes qui s'installent en Algérie et qui installent l'Algérie dans un autre monde, dans un autre contexte économique qui va peser très lourd. Et par ailleurs, Alger représente, dans la circulation maritime en Méditerranée, un point important sur le plan de la géopolitique, de la géostratégie. Et donc, il y a un personnage administratif important dans la décision de garder Alger, c'est la royale, la marine royale, c'est-à-dire la marine de guerre, va peser très lourd dans les décisions de la commission de 1833 ce sont les marins. N'oublions pas que Toulon a été associé à Marseille pour l'expédition d'Alger. Ce sont les marins qui vont peser très lourd pour garder les possessions françaises du nord de l'Afrique, c'est-à-dire Alger et les points, les quelques ports qui sont occupés par les Français. Les décisions de la commission de 1833, entérinées en 1834, entérinent l'occupation d'Alger et territoires du nord de l'Afrique et crée un personnage nouveau qui s'appelle le gouverneur général des possessions françaises du nord de l'Afrique. On peut dire qu'à partir de 1834, la partie est jouée, sinon sur la totalité du fond, du moins sur la forme. Le gouverneur général des possessions françaises du nord de l'Afrique arrêtera son existence en 1956 quand Robert Lacoste sera nommé ministre résident, non pas DENT, mais ministre résident DANT à Alger. Mais en fait, en 1956, l'Algérie est déjà en guerre. Elle est en guerre pour se libérer de la tutelle coloniale. Ça, c'est la première série de ruptures. Cette première série de ruptures engendre la volonté de conquérir le reste du territoire. Alors, on essaiera d'abord de ruser. Et puis après, on s'apercevra qu'il ne faut pas. Il faut y aller. Ce qui ne manquera pas de provoquer des incidents, des allers-retours, des crises. La conquête, à partir de 1834, aura lieu jusqu'en 1848 par le fer et par le feu. On n'a jamais fait le bilan humain de la guerre, de la première partie de la guerre de conquête de l'Algérie. J'ai essayé à un moment donné de le faire, je me suis aperçu que c'était trop lourd et avec des résultats médiocres. Mais la plongée dans les archives militaires fait qu'on n'y est pas allé par quatre chemins. On a incendié des villages, non pas par unité, mais par dizaines. On a détruit des dizaines de vergers. On a détruit des centaines, des milliers d'hectares de récoltes. La politique de la terre brûlée, c'est une politique qui a été pratiquée depuis 1836-1837, jusqu'à 1865-1870. C'est une guerre dure, cruelle, sanglante, épouvantable. Si je fais référence aux témoignages des généraux français qui ont pratiqué, je pense en particulier à Saint-Arnaud, après l'affaire du Dahra dans l'ouest de l'Algérie. Saint-Arnaud, après avoir mis le feu aux grottes du Dahra qui ont brûlé, qui ont asphyxié des centaines de femmes, d'enfants, de vieillards, etc., etc., Saint-Arnaud dit « Je veux croire que Dieu ne me donnera pas l'occasion de rééditer cette affaire sanglante. » Et je peux vous dire également que dans la conquête des massifs montagneux, les documents que j'ai pu trouver ici et là montrent que les officiers chargés de mettre le feu au village, c'est-à-dire que ce sont des oradours sur glane faits de façon délibérée. je les ai cités dans ma tête, c'est épouvantable. Si on devait, montrer ça sous la forme d'un film, je pense que on baisse la tête honteusement. Ça a duré longtemps. Ça, c'est le premier temps. Avec des personnages comme Bugeaud, comme Saint-Arnaud, comme la Mauricière, également. Le deuxième temps, commence en 1848, après la Révolution. C'est la deuxième rupture avec quelque chose qui est déjà apparu dans les années 40-48. L'occupation des terres, l'occupation illégitime des terres. C'est-à-dire qu'on enlève les terres, les meilleures terres, et on les transfère au domaine. Des ordonnances de 1844-1846. Le troisième temps, c'est la fiscalisation. Fiscalisation, on a dit tout à l'heure, Gilbert a parlé de la fiscalité ottomane. Personnellement, je suis très, très modéré dans mon jugement sur la fiscalité ottomane. Il est très modéré parce que la fiscalité ottomane repose sur des impôts levés en nature. C'est-à-dire que si la récolte est bonne, à ce moment-là, vous payez un impôt, par exemple le hachot, vous le payez en nature, un dixième de la récolte, ou la lesma, donc en fonction du croît du troupeau. Mais si la récolte est mauvaise, ben, votre participation à la fiscalité sera légère ou faible. Et donc, non seulement elle sera légère ou faible, mais encore, le bailli, l'État, vous apportera son aide avec les silos de réserve où on a mis du grain dans les bonnes années pour le ressortir dans les mauvaises années. Il y a une espèce de solidarité pour pallier les effets néfastes des mauvaises années. À partir du moment où vous transformez la levée en nature par une levée en monnaie, à ce moment-là, vous détruisez tout l'équilibre lié à cette fiscalité. Car on impose aux cultivateurs, aux fellahs, on impose de verser leur taxe en monnaie française qui, elle, ne change pas en fonction de la valeur de la récolte. Elle est permanente, elle est constante. C'est-à-dire que c'est un manque à gagner. Et non seulement c'est un manque à gagner, parce que quand les gens, pour verser leurs impôts, vendent tous ensemble leurs grains ou leurs moutons ou leurs bêtes, à ce moment-là, la valeur des céréales ou la valeur des moutons ou des bêtes diminue parce qu'il y en a trop sur le marché. Et ça fait l'affaire de qui ? Ça fait l'affaire des commerçants, ça fait l'affaire des négociants, ça fait l'affaire des mercantiles. D'où justement l'effet négatif de l'insertion de l'Algérie dans le circuit économique international. Car c'est un des effets pervers. Et c'est un effet pervers auquel les Algériens, qui sont les premières victimes de cette transformation, n'ont jamais pensé, et dont on n'a jamais parlé avec les Algériens. C'est-à-dire qu'il y a une logique, il y a une dynamique dans la colonisation qui est telle qu'à ce moment-là, les Algériens, les producteurs, à quelque niveau qu'ils soient, les producteurs sont embringués et ils ne peuvent pas en sortir. Ils ne peuvent pas s'en échapper. Ils sont insérés dans le système. Et alors, avec une perversion supplémentaire, c'est que les Français, l'administration française, lève sur le monde arabe, algérien, les impôts français nouveaux, comme de nouveaux contribuables, mais ils lèvent aussi les impôts anciens de l'époque ottomane. Voilà donc un monde doublement imposé. Imposition française, imposition ottomane. L'imposition ottomane, les impôts arabes, va durer jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Système inique. Mais qui a parlé d'équité là-dedans? On ne saurait parler d'équité. Il n'y a pas d'équité. Il n'y a plus d'équité depuis un grand moment. Et ça, c'est une rupture fondamentale. C'est une rupture fondamentale parce que... Et ça va être la nouveauté. Les Algériens sont de plus en plus soumis à la loi française. Avant même qu'on ait annexé les terres, avant même qu'on ait annexé des territoires romaniques, on crée, et avant même qu'on ait créé un système des domaines en Algérie, on a confisqué des terres, on a transféré les biens habous au domaine, alors que le domaine n'existe pas encore en Algérie. Nous allons assister, avec l'installation de la France en Algérie, à un dévoiement, que je pèse mes mots, un dévoiement de la loi française ou d'une certaine équité liée à l'état de droit français. Tout au long des décennies qui ont marqué l'histoire de la présence française en Algérie, l'état de droit sera très souvent ignoré. On va créer une espèce de droit nouveau dont s'émeuvent les juristes. Là, j'ai apporté ici un livre qui a été créé par l'un des plus éminents juristes de la colonisation française, Louis Millot, qui était professeur de droit à l'Université d'Alger et qui a participé à la rédaction du petit manuel sur l'histoire de l'Algérie, du manuel de droit de l'Algérie, dans le manuel de législation coloniale d'Arthur Gilles. Et Millot reconnaît, mais d'autres l'avaient dit bien avant lui, Millot reconnaît que le système français a été dévoyé, avec l'instauration pratiquement de quelque chose inconnu en France, la responsabilité collective. C'est un fait inouï, aberrant. On déclare que dans telle ou telle circonstance, compte tenu de telle et telle série de faits, un groupe d'hommes, 100, 200, 300, 500, 1000, une tribu, est responsable collectivement de tels méfaits. On tourne le droit au droit français, à l'état de droit français. Révolution également parce que, et rupture, par rapport au système ottoman, qui avait l'habitude de juger individuellement, et jamais. Sans doute faisait-on certains beys, je pense au bey Ahmed de Constantine, qui faisait des razzias, mais il n'y avait pas de responsabilité collective. Là on le fait systématiquement. C'est exorbitant au regard du droit français. Peut-être sont ce ces dévoiements, ces premiers dévoiements, qui ont amené à partir de 1850 le nouveau responsable du pouvoir exécutif en France, c'est-à-dire Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, à réagir. Sans doute, son entourage, Saint-Simonien, avec en particulier un groupe d'hommes regroupés autour d'Ismaël Urbain, qui est devenu conseiller du gouvernement à Alger à partir de 1851-52. Il était marié à une Constantinoise, Jamuna, qui est morte de tuberculose. Et Ismaël Urbain a essayé d'infléchir le système. Le système qui avait pris un mauvais pli antérieurement, et le système qui avait, après la révolution de 1948, fait de l'Algérie un ensemble de trois départements français. Alger, Oran, Constantine. Mais qui avait également subi les effets, les premiers effets de la grande crise économique européenne qui était apparue à partir de 1845-1848. L'Algérie a subi de plein fouet la crise de 1948 en Europe. L'Algérie a subi également, mais alors ça c'est un ajout complémentaire, elle a subi la crise du choléra, et elle subira le choléra encore jusqu'au début du XXe siècle. Je dirais que pendant la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1941-1942, on a eu peut-être du choléra, certainement du typhus, mais ça a créé une telle angoisse, une telle panique dans la population et dans l'administration française, que l'administration recommandait aux médecins en 1941-1942, j'ai trouvé ça dans les archives de Constantine, de ne jamais parler de typhus, mais de la maladie numéro 3. Une façon de se voiler la face pour éviter d'avoir regardé en face les méfaits dramatiques de la famine et du manque de médicaments. À partir de 1850, donc, l'Algérie se trouve embringuée dans un système, le système du Grand Empire. La France a retrouvé sa place en Méditerranée, certes, comme on témoigne la signature des accords de Paris en 1856. La France a retrouvé sa place, mais l'Algérie subit à plein les effets d'un capitalisme européen, ouvert, libéral, sans limite, avec création de compagnies maritimes, grandes sociétés foncières, avec des sociétés de la MACTA, sociétés de l'ABRA, compagnies genevoises, Compagnie Générale Algérienne, on distribue la terre des Algériens généreusement par dizaines de milliers d'hectares, voire par centaines de milliers d'hectares, à des sociétés capitalistes qui devaient s'engager à équiper l'Algérie, le sol algérien, des derniers perfectionnements de la vie moderne, mais en fait, le plus souvent, ils n'ont pas fait. Elles se sont contentées d'empocher la terre, de prendre la terre, et puis de remettre à plus tard les engagements qui avaient été. Sociétés financières, sociétés foncières, création d'une banque, la Banque de l'Algérie, 1851, ouverte aux seuls commerçants. Et aux commerçants ayant un certain nom sur la place d'Alger. C'est-à-dire qu'on voulait, théoriquement, on voulait faciliter le commerce, c'est-à-dire qu'on insérait toute l'Algérie, et plus particulièrement Alger, qui était le premier port important de la nouvelle conquête, dans le système capitaliste. On équipe l'Algérie en chemin de fer, les premiers chemins de fer apparaissent en Algérie sous le Second Empire. On crée des lignes de transport maritime régulières entre l'Algérie et aussi l'Europe, et plus particulièrement la France, et avec un monopole du pavillon, le monopole du transport maritime accordé aux seuls armateurs français. C'est-à-dire que l'Algérie devient à ce moment-là une espèce de terrain, un terrain privilégié pour le capitalisme français, le capitalisme maritime français, ce qui fera la fortune de Martel. Soit dit en passant. Le capitalisme également s'installe dans les campagnes, dans les forêts. On met à l'encan des milliers d'hectares de chêne-liège, etc., etc., qui fera la fortune d'un certain nombre de personnages de l'entourage de Napoléon III ou des principaux ministres de Napoléon. Avec, sur le plan social, alors, apparition de fortunes nouvelles, des notables, notables européens, notables français, mais aussi personnages d'un type nouveau dans la vie rurale, l'ouvrier journalier agricole. C'est plus le ramasse, c'est plus le labara, c'est plus le fellah, c'est un ouvrier agricole, journalier. C'est très net quand on lit l'enquête Lehon de 1867. L'ouvrier journalier apparaît comme ça. Il est lié au capitalisme foncier du comptant. C'est pour ça que nous avons, et enfin, troisième élément, redoutable, à la fois destruction des corporations urbaines. Il n'y a plus de corporations en 1863. Il n'y a plus donc. On nie toute existence à l'artisanat urbain. Il faudra attendre l'entre-deux-guerres pour voir revenir en Algérie un artisanat urbain. Et surtout, destruction des solidarités rurales avec le Senatus Consul du mois d'avril 1863. C'est la dynamique, c'est l'explosion de la solidarité rurale, foncière, c'est terminé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la vieille solidarité, ancienne, très ancienne, et ce qui fait partie, qui donne à cette Algérie rurale une continuité profonde avec des protections contre les calamités, contre les sauterelles, contre la famine, cette vieille solidarité disparaît. On ne crée plus maintenant, on n'a plus, au lieu de groupes humains solidaires comme la tribu, on a maintenant des individus qui sont vulnérables, qu'on peut écraser, qui ne peuvent plus se protéger, qui n'ont plus les moyens de survivre à la moindre calamité. C'est l'aspect le plus dramatique, le plus ambigu de la politique impériale avec Napoléon III. C'est l'acheminement de l'Algérie vers la prolétarisation, la sous-prolétarisation du monde rural. Nous avons là, c'est une autre forme de rupture, et c'est une rupture sur laquelle on ne peut pas revenir. Vous remarquerez que nous avons là, chaque fois, on atteint chaque fois des points de non-retour. À partir de quoi, je puis dire, le flot va déferler. Et en première partie, en premier lieu, en 1866, quand arrivent les premiers signes de sécheresse qui marquent le monde rural algérien, mais aussi le monde rural tunisien, le monde rural marocain, le monde rural en Méditerranée. Toute la Méditerranée en 1866 est atteinte par un déficit pluviométrique catastrophique et qui va avoir des effets dévastateurs pour l'Algérie, puisque nous allons avoir, à partir du moment où il n'y a plus de silos de réserve, à partir du moment où il n'y a plus de... Tous les grains ont été vendus, on pouvait les vendre à un prix très élevé sous le Second Empire pour nourrir les armées en Crimée. À partir de ce moment-là, eh bien, il y a plus de... les gens crèvent de faim. Et il n'y a plus moyen non plus d'ensemencer, puisque les grains des semences n'existent plus. Donc, nous avons un nouveau cycle qui s'engraine à partir de 1866 jusqu'en 1870, avec des effets pervers sur le plan bancaire, puisque nous allons avoir des faillites gigantesques en Algérie. Mais, effet secondaire, mais non moins pervers également, à savoir que un grand seigneur de la Medjana, Mohamed Al-Hajj Al-Mokhrani, s'est endetté pour essayer d'acheter des grains aux commerçants constantinois. Il l'a fait, il s'est endetté et il a contracté des emprunts auprès des banques et des banquiers. Et il avait comme caution, puisqu'il n'avait pas assez de moyens financiers, il n'avait pas assez de garantie financière, il a eu comme caution le maréchal Pélissier. Pélissier s'en va en 1870 pour faire la guerre en Europe, et Mohamed El-Hajj El-Mokhrani est obligé de faire face aux dettes qu'il a contractées. Il ne peut pas les payer. Il se tourne vers l'administration qui ne peut pas lui apporter la moindre garantie. Que fait-il? Il considère qu'il a été floué, il se révolte. L'insurrection de Mokhrani inaugure à partir de 1871, elle est écrasée. Il faudra 3 ans pour l'écraser, hein. Jusqu'en 1873. Et il faudra des procès redoutables avec des condamnations à mort, condamnations au bail, etc. Cette répression inaugure la nouvelle politique coloniale française. Et je dois dire que cette rupture de la politique française intérieure, on peut la symboliser malheur au vaincu. Malheur au vaincu et les vainqueurs tout puissants imposent leur loi. Alors, quand on lit certains textes, là j'ai apporté le texte de Lillo qui se demande quelle politique indigène. Alors, la réponse de Lillo est absolue, c'est un chef-d'œuvre d'hypocrisie. Il faut que les indigènes se soumettent en trouvant que l'ordre français est un ordre juste et humain. Ce qui est, sur le plan réel, le mensonge le plus déhonté, le plus effronté qu'on ait pu écrire. Je peux vous envoyer à la page 76 et 77. De son manuel de législation algérienne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus dorénavant de digue pour arrêter l'autorité de la France, l'autorité des Français, au cœur du système, au cœur de ce système. Je rappellerai l'installation de l'indigénat. L'indigénat est né directement de la révolte de Montréal. On envoie les premiers linéaments en 1874 et qu'on perfectionne, si je puis dire, en 81 et en 90. C'est un ensemble de règlements qui permet d'enserrer les Algériens de des campagnes comme des villes dans un tissu de règlements, d'interdits, d'interdictions, d'amendes, de jours de prison, etc. etc. C'est un système pervers, raffiné, qui fait de tout fonctionnaire ayant un pouvoir quelconque, les maires, les administrateurs de communes, qui apparaissent également au lendemain de la révolte de Montréal, qui font des maires et des administrateurs de communes des policiers permanents. C'est-à-dire que cette liberté de circulation des Algériens, nomades ou pas, pasteurs ou pas, forestiers ou pas, cette liberté de circulation est arrêtée, bloquée par des interdits. Interdits sanctionnés par des amendes et des jours de prison. Avec, en supplément, comme dans la première moitié de la France du XIXe siècle, un livret à faire viser à chaque déplacement. Le fait de ne pas dénoncer un étranger à la tribu ou au village, le fait de ne pas dénoncer devient un acte répréhensible, donc sanctionnable, donc on le punit par la prison ou par une amende. C'est-à-dire que tout devient, les individus sont enserrés dans un réseau serré, avec des blocages à chaque instant. Et de ce fait, l'Algérie et les Algériens sont, par l'indigénat, dans un système policier permanent. Il faudra attendre la veille de la Deuxième Guerre mondiale pour que le système tombe en désuétude, et encore pas toujours. Alors on a institué des caisses de crédit agricoles. Oui, mais qui peut y avoir accès? Les gens qui ont une certaine surface, c'est-à-dire les Européens. Et donc dans l'organisation du crédit, nous avons un déséquilibre également entre Européens et Algériens. Il faudrait, en vérité, développer dans le détail cette discrimination, cette dissymétrie. Mais quand on fait l'analyse, et j'ai là Favreau, un journaliste suisse, a essayé de voir comment se répartissaient les emprunts des Européens, les emprunts des Algériens, il y a des différences fantastiques entre les uns et les autres. Et donc nous avons en troisième lieu donc cette aggravation par le capitalisme d'une situation économique difficile, parce que les Algériens ne peuvent pas améliorer leurs techniques de culture qui sont trop coûteuses, trop onéreuses. Et donc, les seuls perfectionnements possibles ne peuvent toucher que les Européens qui ont l'argent. Qui ont l'argent et qui ont le crédit, surtout. Donc, à ce moment-là, nous avons un système profondément inégal, inégalitaire, système policier, système bancaire inégal, et au cœur de tout, quelque chose sur lequel il faut insister, une chose sur laquelle il faut insister, un racisme profond. L'Algérie n'est pas un pays où l'égalité, la liberté, la fraternité ont cours. Ça, ce sont des slogans au fronton des tribunaux ou des mairies. La réalité, c'est l'absence de liberté avec le système de l'indigénat. L'absence de fraternité. L'absence de toute équité. Et avec un mépris. Je pense que si je devais qualifier le temps de la colonisation, je paraphraserais le titre de ce grand livre de Malraux, Le temps du mépris. Jamais, je suis né en Algérie, j'y ai vécu ma petite enfance, de l'âge de ma naissance jusqu'à 1942, donc j'ai été mobilisé pendant la guerre, puisque je suis un très vieux monsieur, j'ai 90 ans. Et donc, pendant tout le temps de ma vie d'enfant algérien en Algérie, je n'ai jamais vu de geste de fraternité. En revanche, je ne compte pas les gestes de mépris. Mépris, racisme, anti-arabe, abajo moro, abajo mal, disaient les Espagnols, d'Aïn El Arba en Algérie. Hijo de puta, disaient les petits Français aux petits Espagnols, copains espagnols, ou bien hermano de puta, alors ça c'était le plus grave, frère de putain, on pouvait être tranquille, ça engendrait une bagarre, etc., etc. Tant du mépris, tant du racisme. Je pense que derrière le racisme, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens s'ignorent. Et je crois que nous portons aujourd'hui encore, en 2012, au cœur de cette incompréhension entre Français, pieds noirs, ou pas pieds noirs, et Algériens, et bien nous portons encore des effets pervers d'un racisme qui a prospéré, qui a fleuri. Parce que, avec le racisme, c'est l'ignorance de l'autre. C'est le mépris de l'autre qui est l'ignorance de l'autre. Je ne le connais pas. Je ne veux pas le connaître. Je peux vous dire que du temps que j'étais petit garçon, même si j'étais un très bon élève, je n'ai jamais, vous entendez bien, jamais fréquenté, je n'ai jamais été reçu dans une famille catholique, chrétienne. En revanche, un de mes copains de l'école, le dernier de la classe, m'a fait venir chez lui, il s'appelait Maître Lenoir. Maître Lenoir m'a dit, tu viens à la maison. Je suis allé chez le voir, il était à la limite du village. Sa mère était devant le gourbi familial. Elle faisait cuire une kefra, du pain, un arabe. Elle m'en a offert très généreusement. J'ai regardé comment c'était chez lui. Et j'ai compris pourquoi il ne pouvait pas à la fois apprendre ses leçons, faire ses devoirs. Pourquoi il était le dernier de la classe. Parce qu'il n'était pas possible qu'il en soit autrement. C'est-à-dire que nous avons raté là, peut-être, comme dit Hachon, Une occasion, oui, mais il aurait fallu la prendre très tôt. Le drame, c'est que il n'était pas possible qu'il en fût autrement. On ne construit rien sur le racisme. Or, hélas, l'Algérie a été construite sur un racisme malheureux et profond. On peut le regretter, on peut s'en désoler. C'est. Et le système politique reflétait admirablement le jeu du racisme. Je voudrais terminer avec ce mot d'un conseiller général constantinois en 1878. Quand un conseiller général désigné par l'administration française, Ben Badis, qui appartenait à une des familles les plus notables, les plus illustres du Constantinois, enraciné dans le pays depuis longtemps, grand bonhomme, personnage important, Ben Badis demande qu'on fasse une place aux Algériens dans la délégation qui doit aller à Paris parler justement des problèmes de Constantinois, tout ceci, tout cela. Et le conseiller général, un bouger quelconque, lui prend la parole et dit: les Arabes n'ont rien de ce qu'il faut pour représenter les autres populations arabes. Le président du conseil général, Xavier Serrant, l'affaire est terminée. Je vous remercie.